je tenais à vous remercier de vous être levé de temps pour venir au Forum national des associations et des fondations. C'est la première conférence de la journée. Visiblement, il y a eu quelques problèmes en bas pour, avec l'outil informatique qui fait qu'il y a encore beaucoup de monde qui est en train d'attendre pour essayer d'arriver dans les salles de conférence. Donc, il faudra trouver du jour avec les personnes qui arrivent dans la salle. C'est pas de leur fait et je m'en excuse auprès d'elles par avance. Alors, merci d'être là, puisque aujourd'hui, au niveau de la Mutuelle Corum, que j'ai la chance, où j'ai la chance de travailler en tant que directeur de la communication et des relations extérieures, on a une mutuelle qui accompagne au quotidien à peu près 25 000 associations en matière de protection sociale complémentaire, c'est-à-dire la prévoyance et la complémentaire santé. On a une mutuelle qui est dédiée à l'économie sociale et solidaire. On a vraiment un engagement de 50 ans dans ce secteur-là. Et comme on a une mutuelle qui est dédiée à l'économie sociale et solidaire et aux associations, on a un engagement extrêmement fort pour essayer de relever avec nos partenaires associatifs l'ensemble des défis que peuvent avoir les associations. Et c'est vrai que sur l'ensemble de ces défis, il y en a beaucoup. On parle souvent des défis qui sont liés aux projets associatifs, comment le secteur associatif peut répondre aux nouveaux besoins de la population. On parle des enjeux économiques, comment trouver des nouvelles sources de financement et diversifier son modèle économique. On parle aussi gouvernance, comment rendre une gouvernance plus attractive et renouveler l'engagement des bénévoles et des administrateurs. Mais c'est vrai que le sujet de la communication, c'est pas souvent traité. C'est pas traité au niveau politique par les grands réseaux de l'économie sociale et solidaire, et c'est peut-être aussi pas souvent traité de manière correcte au sein du secteur associatif. Et donc, en tant que directeur de la communication de la Mutuelle Corum et qui est partenaire de ce forum, on voulait justement mettre en lumière ce levier qui est stratégique dans le contexte actuel des associations qui doivent se mettre en valeur pour pouvoir défendre son modèle et continuer à se développer. Et du coup, on a fait appel à un certain nombre d'experts qui sont tous et toutes dans le secteur associatif. Et on pensait que l'illustration de ces témoignages par leur diversité pourrait certainement apporter, en tout cas, au public qui est présent. Et donc, il y a beaucoup de monde. Donc, j'imagine que finalement, même si c'est pas souvent traité, ce sujet intéresse quand même. Et donc, encore merci d'être présent ce matin avec nous. Alors, peut-être avant de laisser la parole et de faire un tour de table pour vous présenter l'ensemble de ces intervenants, je vais juste vous poser une ou deux questions pour savoir qui est dans l'auditoire, puisqu'on ne le sait pas forcément. Je voulais juste savoir les personnes qui travaillent sur le métier de la communication. Levez peut-être la main, qu'on sache si c'est la majorité de la salle. Donc voilà, donc on a une salle qui est principalement composé de personnes qui travaillent dans le métier de la communication, qui a plutôt une fonction de direction générale. Ok. Est-ce qu'il y a peut-être des étudiants ou des gens en recherche? Ok. Ok, bah, écoutez, c'est très bien. En tout cas, on a voulu justement répondre à ces différents publics, à la fois les experts de la communication et à la fois le management du secteur associatif, donc les dirigeants, sur savoir comment ils pouvaient s'investir sur ce sujet. Alors, pour avant de débuter cette conférence, je voulais quand même présenter mes différents intervenants et intervenantes, plutôt intervenantes et intervenants, puisque on est en majorité à Ismaël. à ma droite, Caroline Grosso de Lavenay, qui est directrice du développement du mécénat et de la communication à la sauvegarde du Nord. À ma droite également, Amélie Ducornet, qui est associée de l'agence AIN et également co-auteur d'un livre sur la communication associative. Et on en parlera tout à l'heure, puisque le livre, il est là. Je vais peut-être le montrer dès à présent. Qui vient de sortir, je crois.
Il est tout chaud.
Et si vous souhaitez avoir ce livre, vous pourrez venir l'acheter sur le stand de la Mutuelle Corum pendant une heure après la conférence, où vous aurez l'auteur qui sera présent également. Alors, à ma gauche, Émilie Boulet, qui est la directrice de la communication et de la collecte de RSF, Reporters sans frontières. Toujours à ma gauche, Ismaël Lemoël, qui est le fondateur de Hello Asso. Et puis encore à ma gauche, Florence Puy, qui est la directrice de la communication et des partenariats de Nexem, qui est le premier syndicat d'employeurs de l'économie sociale, qui se situe dans le secteur du handicap principalement. Voilà. Alors, Sans plus attendre, on a demandé, enfin, je voulais demander à Amélie, qui est finalement une experte, qui a passé plusieurs mois pour écrire son livre dans les associations pour décortiquer finalement la relation entre la communication et le secteur associatif, de faire un premier état des lieux à la fois de la situation et des enjeux de cette relation.
Ok, merci beaucoup Jean-Baptiste. Alors en effet, nous, ce qu'on peut observer et ce dont on peut être témoin, c'est que, et votre présence aujourd'hui, ce matin, en nombre, le reflète aussi, c'est que finalement, communiquer, ça devient vraiment une urgence pour les structures de l'économie sociale et solidaire. Alors pourquoi une urgence ? Eh bien d'accord, d'abord parce que nous sommes dans une société en quête de sens, et dans une société en quête de sens, on a naturellement les projecteurs médiatiques qui se braquent sur l'économie sociale et solidaire. Et ça, c'est relativement récent. On attend des structures sociales et solidaires qu'elles communiquent, qu'elles parlent, qu'elles racontent ce qu'elles font. Et puis, on assiste à un changement, voire un bouleversement en termes d'écosystème. On n'a jamais autant parlé de l'économie sociale et solidaire. Les chaires d'entrepreneuriat social se multiplient. Nous avons une loi depuis juillet 2014 et depuis plus récemment un haut commissaire à l'économie sociale et solidaire. Alors, les projecteurs se braquent, on parle de l'économie sociale et solidaire, et puis, en même temps, on subit de plein fouet le recul de l'État. On subit de plein fouet la perte des contrats aidés, hein, qui va s'arrêter en janvier 2018. Et puis dans ce contexte, du coup, les associations doivent plus que jamais innover pour aller trouver des nouveaux financements, pour innover sur le modèle économique, s'adresser à de nouvelles cibles. Et c'est là que la communication prend vraiment tout son rôle.
Ok, mais effectivement, ce qui est assez, frappant, c'est que finalement, on a une relation un peu je t'aime moi non plus entre les acteurs associatifs et la communication. Quels sont ces freins culturels qui empêchent que les associations se saisissent de ce moyen, de ce levier, alors que finalement, les entreprises classiques ont bien compris, investissent très largement et en tout cas en font une de leurs priorités?
Oui, en effet. Communiquer pour les associations devient une urgence, et à la fois, c'est une urgence, mais loin d'être une évidence. Il y a plusieurs freins auxquels les associations sont confrontées. Le tout premier, c'est que finalement, c'est difficile de savoir comment faire, parce qu'on est quand même dans un secteur qui n'a pas été habitué à communiquer, donc c'est quelque chose de nouveau, et c'est difficile d'avoir en interne les savoir-faire, et de savoir finalement comment s'y prendre. Et puis surtout, on est assez souvent confronté à un frein culturel. Culturel parce que finalement, en France, dans l'inconscient collectif, finalement, communication et valeur, ça ne fait pas forcément bon ménage. Lorsqu'on communique, on se dit que peut-être on va un peu vendre notre âme au diable. On a un peu peur que, en communiquant, vous savez, c'est un peu comme plus on en dit, moins on en fait. On perd un peu, on perd certaines de ses valeurs en communiquant. Ce frein culturel, on l'observe vraiment au quotidien. Et c'est vraiment une véritable transition qui est en train de se jouer au sein des associations. D'ailleurs, on parle de plus en plus d'entreprises associatives et d'associations. Et c'est vraiment tout un changement culturel qui a lieu et qui tout doucement prend en main la communication et le voit comme un véritable levier de développement.
Donc, merci pour cette introduction. On va rentrer maintenant dans le vif de la communication des associations avec un premier témoignage, celui de Florence Puig. Ce qui est intéressant dans votre parcours, Florence, c'est que vous avez à la fois eu une expérience dans le privé et puis depuis un certain nombre d'années maintenant dans le secteur associatif, donc dans une association qui travaille dans le handicap. Peut-être qu'au travers de votre parcours, vous pouvez peut-être illustrer un peu ces freins culturels et quel est votre métier aujourd'hui dans le secteur associatif en tant que directrice de la communication.
Oui, alors effectivement, en 2005, J'ai fait le grand bond en avant. Alors, je ne sais pas si c'est le bon terme. Enfin, il est associé à des références culturelles qui peuvent être débattues. Mais en tout cas, j'avais fait 7 ans dans le privé lucratif. J'avais différents postes en communication chez Bouygues Télécom. Et je suis passée, je ne vous ferai pas les raisons du choix, mais je suis passée de chez Bouygues Télécom à une fédération dans le secteur de l'aide à domicile, statut association 1901, à but non lucratif. Donc ça a été un choc culturel pour moi. Mais l'intérêt, ça a été aussi d'être en prise avec justement les évolutions qui avaient lieu à ce moment-là dans le secteur. Et maintenant, avec le recul, ça fait 12 ans que je travaille dans l'associatif et puis donc antérieurement 7 ans dans le privé. Donc j'ai quand même un bon recul sur les choses. Et c'est vrai que quand je suis arrivée en 2005 dans l'aide à domicile, on en était aux prémices de la professionnalisation de la communication dans ce secteur. Alors je dis bien dans le secteur de l'ESS, hein, parce que pour le caritatif, pour les associations du domaine caritatif, je pense que les choses ont démarré antérieurement. Pour des raisons de développement et de subsistance. Donc c'est vrai que la modernisation en termes de communication du caritatif, pour moi, elle intervient dès les années 80. Mais c'est vrai qu'en 2005, dans le secteur de l'aide à domicile en tout cas, c'était les balbutiements. Et effectivement, je me souviens au démarrage avoir eu quelques conseils d'administration un petit peu polémique, où déjà la question c'était de savoir si faire du marketing et encore plus de la communication et encore plus du marketing était idéologiquement acceptable ou pas. Avec le recul et quand je revois ces années passées, moi j'en ai tiré 3 enseignements. Hein. Le premier, c'est que de toute façon, l'évolution, elle se fait avant tout par des enjeux exogènes. C'est-à-dire que ce qui fait qu'à un moment les associations se mettent à la communication, c'est parce que le contexte extérieur évolue et les y oblige. Et qu'à partir du moment où le contexte évolue et les y oblige, je dirais que les débats idéologiques tombent assez vite. Ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, n'importe comment, mais ça veut dire que typiquement dans l'aide à domicile, en 2005 c'était le plan Borloo, enfin ce qui est devenu la loi Barlow, c'est-à-dire l'ouverture du marché de l'aide à domicile au privé lucratif. Je peux vous dire qu'en 2 ans, les associations qui voulaient pas communiquer, les associations du non lucratif dans l'aide à domicile qui voulaient pas communiquer, qui ne voulaient pas en entendre parler, 2 ans après, avaient une toute autre vue sur la question. J'ai pu aussi le constater dans le champ du handicap. Alors le handicap, c'est pas un secteur ouvert à la concurrence au même titre que l'aide à domicile aujourd'hui. Mais néanmoins, il y a eu une loi assez importante en 2009 qui était la loi Hôpital Patient Santé Territoire, pour ceux qui la connaissent, et qui mettait, on va dire, en concurrence les associations gestionnaires d'établissements pour personnes handicapées à travers des appels d'offres, des appels à projets que les financeurs lançaient pour que les associations obtiennent le financement de projets de développement ou de nouveaux établissements. Donc ça les a mis de facto dans un contexte de différenciation, d'enjeux d'émergence. Et là encore, bah, la communication, elle s'est imposée naturellement comme une solution qu'il fallait investir et qu'il n'y avait pas le choix. La deuxième chose, c'est que moi, ce que je constate, c'est que dans les associations, la communication n'est plus un problème à partir du moment où on prend le temps de faire œuvre de pédagogie. Moi, je pense qu'en 12 ans de métier dans l'associatif, j'ai passé autant de temps à faire de la pédagogie sur le métier, sur les outils de la communication, sur la manière dont les outils pouvaient être mis au service d'un projet d'intérêt général, et que c'était pas parce que c'était des techniques de communication qu'elles pouvaient pas porter un projet d'intérêt général. Je pense avoir passé honnêtement la moitié de mon temps professionnel à faire œuvre de pédagogie, mais c'est absolument indispensable. C'est indispensable pour convaincre les sièges associatifs, pour convaincre les salariés, pour convaincre les dirigeants élus, qui comprennent bien que, ben, à un moment, il faut s'y mettre, mais qui, effectivement, peuvent avoir des réticences assez fortes et légitimes de se dire « est-ce que ça va pas dénaturer le projet associatif qui est le nôtre au départ ?» Et ça, c'est des choses qu'il faut expliquer. Moi, je me souviens, quand je suis arrivée à l'UNA, on m'a envoyé faire des formations sur le territoire de dirigeants de bénévoles élus sur les enjeux de la communication. Et en fait, c'était très intéressant parce que ça confrontait un discours qui était le mien, qui était et qui reste une croyance, hein, à savoir les techniques et les outils modernes de la communication sont parfaitement adaptés aux enjeux spécifiques des causes associatives, à condition qu'on les utilise avec une méthodologie adaptée et qu'on fasse les choses intelligemment. Il n'y a aucune raison que ces outils-là ne soient pas au service d'un projet associatif et que les associations ont tout intérêt à s'y mettre. Mais en tout cas, moi, je portais ce discours-là et j'ai pu échanger avec des dirigeants associatifs qui, eux, nous expliquaient aussi les problématiques auxquelles ils étaient confrontés, en particulier les problématiques de moyens, parce qu'une fois qu'on a dit qu'on fait de la communication, c'est bien, mais dans une association, peu ont les moyens de se payer un responsable de com, voire même une agence en appui. Donc comment on fait, comment on se débrouille? Donc j'ai eu cet échange. Deuxième sujet, par exemple, de pédagogie, c'est le média training. Le media training, alors ça peut paraître être un gros mot, ça va être la capacité de former le président ou le directeur général d'une association aux techniques de la prise de parole en public et en particulier aux techniques de la prise de parole média. Je peux vous dire que quand vous êtes directeur ou président d'une association dans le périmètre du sanitaire, du médico-social ou du social, enfin c'est plus les associations que je connais, il y en a peut-être dans la salle. Vous êtes en lien avec des publics fragiles, vous avez à gérer des situations de crise, parfois question de vie hein, ou de mort, en tout cas des problématiques très sensibles, et c'est pas du luxe à un moment de s'interroger quant à effectivement un dispositif de formation, alors qui concerne vraiment que les têtes de pont de l'association, mais ce qui peut paraître encore être, je dirais, de la science-fiction il y a 10 ans, bah aujourd'hui, la question, elle peut tout à fait être posée, selon moi. Troisième enseignement, je pense néanmoins qu'aujourd'hui, il faut peut-être qu'on réinvente un petit peu la communication associative. Parce qu'il y a eu un brouillage des cartes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'association n'a plus le monopole des valeurs, n'a plus le monopole de l'intérêt général. Beaucoup d'entreprises privées se sont récupérées les codes de la communication associative pour développer des politiques de RSO, vous en avez entendu parler, de développement durable, et ils savent très bien le faire. Ils ont des moyens souvent puissants aussi qui permettent de porter les messages. Et donc finalement, les frontières entre ce qui serait la caractéristique d'une communication associative ou la caractéristique d'une communication d'entreprise à vocation ou à valeur sociale, elle n'est pas évidente. Et on le voit, je ne sais pas si on prend la loi ESS, le terme justement d'entreprise associative, c'est quoi, quelle est cette nouvelle espèce endogène qui vient d'apparaître? Je pense que sur la communication, c'est pareil. Et qu'aujourd'hui, on a tout intérêt à se poser un peu les questions des fondamentaux de la communication associative. Qu'est-ce qui la distingue? Qu'est-ce qui peut faire qu'elle émerge par rapport à la communication d'une grosse boîte, et c'est pas péjoratif quand je dis ça, une grosse entreprise du CAC 40 qui a envie de mettre en avant son engagement sociétal et citoyen. Je pense qu'il y a déjà quelque chose qui caractérise assez fortement la communication associative, c'est que c'est une communication du relationnel, c'est une communication du réseau. Une association, c'est bien fédérer des énergies autour d'un projet commun, d'intérêt général. Et donc, je crois qu'il y a des très forts enjeux dans la communication associative de créer des communautés d'appartenance, de favoriser le partage. Et là, je crois, et je pense qu'un des intervenants reviendra peut-être tout à l'heure dessus, mais qu'il y a un potentiel très important avec la digitalisation des supports de communication qui peut vraiment être un outil très adapté et très intéressant pour les associations au regard de cet enjeu de communication que j'appelle relationnel ou réseau, on peut la qualifier de différentes manières. Je pense aussi qu'il y a aussi un enjeu qui est l'exemplarité. Pareil, ça paraît être enfoncer des portes ouvertes, mais on voit parfois que c'est pas ceux qui en parlent le plus qu'ils font le mieux. Si vous portez un projet associatif autour du développement durable ou des engagements citoyens, typiquement, je pense qu'il faut vérifier et s'assurer qu'en interne, on a une communication un petit peu exemplaire en la matière, que par exemple, pour ces supports éditoriaux, on utilise du papier systématiquement recyclé, retraité, enfin ce genre de choses. Et puis dernière chose, je pense que la communication associative a un champ à prendre un petit peu en matière d'innovation et de pas de côté, dans la mesure où finalement nos associations, elles ont été créées par l'innovation, enfin pour répondre à des besoins qui n'étaient pas couverts. que les associations savent très bien manier l'innovation. Finalement, avec leurs moyens sur leur territoire, elles arrivent à monter des projets, elles arrivent à changer les pratiques. Et je pense qu'en termes de communication, on devrait un petit peu faire la même chose. Je pense, par exemple, que l'association pourrait se permettre dans sa communication d'inviter davantage à faire un pas de côté par rapport au politiquement correct. Penser justement à casser un petit peu les codes, à jouer ce rôle d'aiguillon finalement qu'elle a été par nature et qu'elle pourrait se réapproprier dans un contexte où justement on cherche à lisser un petit peu au maximum les choses. Donc voilà, ça c'est un premier témoignage d'expérience.
Merci pour ce panorama. Alors, on aura une intervenante qui parlera... Je pense du côté un peu pas de côté et politiquement correct. Ce sera intéressant en complément des propos de Florence. Mais Florence, peut-être juste pour compléter ton propos, ce qui me semble intéressant, c'est que tu as vécu dernièrement la fusion de deux associations pour refonder un projet global, puisque c'est deux syndicats d'employeurs, donc deux syndicats qui fédèrent des associations qui se sont rapprochées. C'est un des enjeux majeurs, la concentration du secteur associatif. Et nous, on constate souvent que dans ces projets-là, on oublie souvent l'humain et donner du sens au projet. Donc la communication a un rôle central à jouer. Peut-être que tu peux nous donner ton expérience sur ce sujet-là.
Oui, alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu la joie et le bonheur sans fin de vivre une fusion associative. Vraiment, c'est une expérience unique.
Pour continuer à vous réveiller, pour ceux qui ont subi ou vécu ou vont vivre une fusion ou un regroupement ces dernières années, vous pouvez juste lever la main. Pas tant que ça. Hein. Les autres, vous pouvez vous y attendre quand même. Hein.
C'est une joie sans cesse renouvelée. Non, c'est à la fois, oui, un des gros enjeux du secteur associatif actuellement. Et en termes de communication, c'est vrai que c'est une étape à ne pas louper. Alors c'est vrai que dans notre cas de figure, enfin le cas de figure que j'illustre, la bonne nouvelle, c'est qu'on était parti sur... Enfin, on a évité deux écueils au démarrage qui étaient importants à éviter. Le premier, c'est que la fusion était vraiment bâtie sur un projet politique et stratégique assez fort qui faisait sens et unanimité auprès des publics internes comme des publics externes de l'association. Alors, ça paraît être une évidence, mais ça l'est pas tant que ça. Déjà, quand le projet est interrogé dès le départ, ça va vous susciter énormément plus de problèmes que quand il y a au moins un socle commun d'intérêt partagé et de sens donné à cette fusion. Donc déjà, on avait ce bon point-là pour nous. Le deuxième bon point, c'est que, pour une fois... La communication a été mise très en amont du projet. Alors je dis pour une fois, parce qu'on a beau tous s'entendre sur le fait que la communication est stratégique et donc doit être mise en amont des projets, dans les faits, c'est loin d'être souvent le cas. Et que je trouve souvent que même nous, en tant que directeurs, je parle en mon nom, peut-être les autres pourront témoigner, mais qu'en tant que directeur de la communication, parfois on est obligé de rétablir les choses et de dire non, la question de communication, elle doit être intégrée dès le démarrage d'un projet, pas uniquement en aval, quand il s'agit de tomber un communiqué de presse, une plaquette, maintenant faut produire, la com est là. Non, la question c'est comment en amont, dans la réflexion stratégique, on anticipe les problématiques de communication et on y répond. Ça, au niveau de la fusion entre la FEGAPI et le CINAS, que c'était le nom des deux entités qui existaient, le chantier a été identifié très en amont, et le gros chantier, ça a été le chantier de la création de la marque. Parce qu'on partait de deux entités qui avaient un métier à peu près commun, mais en fait on s'aperçoit souvent que derrière deux métiers qui ont l'air similaires, il y a deux cultures d'entreprise qui n'ont rien à voir. Et on s'est confronté à ça. Et finalement on avait le même métier, mais on n'avait pas l'impression de parler toujours de la même chose. Et donc l'un des gros enjeux, ça a été comment va s'appeler cette jeune mariée. Et ça, c'est des questions qui paraissent parfois un petit peu anecdotiques ou secondaires, mais qui ne le sont pas du tout, parce que là, on touche à l'identitaire, on touche à la première incarnation de ce qui fait le nouveau projet collectif. Donc c'était un sujet sur lequel il ne fallait pas se rater. Donc nous, on a fait appel à une agence qui est spécialisée en création de noms. On a souhaité faire appel à un spécialiste parce que c'est un métier et parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes confronté à la création d'une marque, vous êtes confronté à deux problématiques, une problématique créative, mais une problématique juridique. Aujourd'hui, tout est déposé. Dès que vous voulez créer une marque, il y a tous les noms de domaine qui sont réservés. Juridiquement, il faut faire des recherches d'antériorité pour voir les prises de risque. Enfin, c'est une usine à gaz. Donc, on a souhaité se faire accompagner de manière un peu pointue sur le sujet. Et c'est une recherche autant créative que juridique aujourd'hui, une recherche de marque. Donc, on a fait du participatif parce que le but, c'était d'associer les publics internes et externes. Mais on n'en a pas fait trop non plus. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait que 6 mois pour faire la marque et que si on avait passé plus de temps en démarche participative, ça aurait été ingérable en termes de timing. Mais on l'a fait avec des ateliers, des formats réduits, mais qui ont très bien fonctionné. Et on est parti en plus sur un brief un peu structurant, puisqu'on a dit pas de sigle et pas d'acronyme. Or, dans le secteur des organisations professionnelles d'employeurs, c'est pas compliqué. Cherchez bien. Je crois qu'il y a Alliance Police qu'on cite toujours pour dire « Ah, c'est une marque, ce n'est pas un sigle ou un acronyme », mais pour tous les autres, le MEDEF, enfin bon, la CGPME, la FNSEA, bon, je ne vais pas vous les faire, dites tous.
Dans le secteur associatif, on est pas mal non plus.
Pas mal aussi, mais alors c'était vraiment sur les organisations professionnelles, c'est l'explosion, c'est le festival. Donc on a dit « Pas de sigle, pas d'acronyme, une marque ». Donc c'est quoi une marque ? Bah justement, c'est quelque chose qui ne veut pas forcément dire quelque chose. Ah, d'accord, bon. Donc c'était très en rupture. Et puis finalement, on a été étonnamment surpris de voir que ça s'était bien passé. On pensait vraiment qu'on allait se prendre des tomates dans la figure, surtout quand on est parti présenter la marque aux adhérents avec un petit film support, parce qu'il faut toujours, là encore, faire œuvre de pédagogie et expliquer les choix qu'on fait. Et puis finalement, à la fin de la réunion, les gens nous disaient « Oh ben Nexem, alors comment on fait pour le mettre en route ?» Les gens, en fait, dès la fin de la réunion, utilisaient le nom. On s'est dit « Ça va, ça se passe pas trop mal. » Et puis, juste pour conclure, on a aussi eu 2 leviers importants pour cette fusion, pour accompagner le changement en matière de com. Ça a été le choix de la digitalisation. On a fait le choix dans la réorganisation de dédier un poste au community management, donc ce qui relève de l'animation des réseaux sociaux. Donc ça paraît anecdotique, mais dans une structure associative, avoir un temps plein dédié à du community management, c'est quand même un choix structurant pour une organisation comme la nôtre. On a fait une campagne de liens sponsorisés sur LinkedIn, Facebook et Twitter dès la création de la marque, puisqu'en fait, on n'avait pas d'existence, donc on n'avait pas d'antériorité en matière de communauté sur le web. Donc, il a fallu se créer artificiellement des communautés. Et puis, dernier point très important, on a accompagné le processus de fusion d'un gros travail en matière d'événementiel. On a fait tout le temps de l'événementiel. On a fait de l'événementiel pour faire des rencontres entre les collaborateurs des deux structures. À peu près tous les 2 mois, 2 mois et demi. On a fait des événementiels pour faire se rencontrer les représentants régionaux des 2 organisations qui allaient fusionner. On a fait des séminaires pour faire rencontrer les futurs conseils d'administration des 2 entités. On a passé notre temps à faire du participatif et de l'événementiel parce qu'une fusion, c'est avant tout de l'humain, c'est du vivant. Et si vous n'y passez pas par ces étapes-là et que vous vous contentez de quelques argumentaires bien tournés, ça ne fait absolument pas le travail de fond. Voilà, j'arrête là parce qu'après, je suis trop bavarde.
Merci en tout cas. On va passer à un autre pan de la communication, c'est la communication au service du projet et du développement économique. Et pour le coup, la sauvegarde du Nord, tu peux nous en toucher un petit mot, Caroline, mais très en pointe sur cette question. Même ton titre, déjà, est tout un poème, directrice du développement, du mécénat et de la communication. Donc, comment, vous, au niveau de la sauvegarde du Nord, vous avez une approche de la communication, finalement, au service du développement économique et du projet associatif, c'est-à-dire, quel fondement et quelle maillotique pour que ça prenne corps dans votre association et quelle réussite aussi.
Alors, d'abord la communication, il faut savoir que, alors pour vous j'en sais rien, mais pour nous elle a été beaucoup portée par la direction, clairement. C'est un choix stratégique, c'est quelque chose qui, pour une association comme la Sauvegarde du Nord qui travaille sur 5 champs de compétences et qui pourrait prendre la parole sur au moins 15 sujets sociétaux du moment, partant des migrants, les salles de shoot, des sujets extrêmement compliqués à gérer, on s'est dit que l'erreur à pas commettre, c'est globalement en période de crise notamment, de supprimer la communication, ou en tout cas de continuer à considérer comme le parent pauvre, alors qu'en fait on a besoin clairement de communiquer, de faire parler de nous, de parler de nos actions. Et encore plus en ce qui nous concerne quand on travaille sur effectivement un panel de champs comme l'addictologie, le handicap, la protection de l'enfance, l'inclusion sociale et la santé. C'est quand même extrêmement extrêmement vaste. Donc la communication elle est pensée dès le départ dans les fondements de l'association et dans le projet associatif, et elle est réfléchie également quand on crée des projets. C'est-à-dire qu'elle fait partie de la base. Et effectivement, comme tu le disais, Jean-Baptiste, mon titre l'explique, c'est qu'on pense la communication, le développement et le mécénat en synergie. C'est-à-dire qu'avec mon équipe, on travaille en même temps sur tous les fronts. C'est-à-dire qu'on va développer, on va penser à développer un projet. En parallèle, on va penser à la communication et à savoir comment on va réussir à communiquer à l'interne et à l'externe sur ce projet pour mobiliser tout le monde et mobiliser les partenaires potentiels. Et également réfléchir aux mécènes qu'on va pouvoir aller solliciter pour pouvoir les séduire et les emmener avec nous vers ce projet. Donc on a ce panel-là, en tout cas cette stratégie sur la communication de l'association en tant que telle. On a également une stratégie de com pour les établissements, c'est-à-dire qu'à la sauvegarde, on a une centaine d'établissements. Donc il y a de la com interne et de la com externe. Au début, il faut savoir qu'en 2010, il y avait 35 établissements à la sauvegarde et chacun faisait sa communication dans son coin. Chacun faisait ses petites plaquettes. Voilà, tout le monde aimait bien. Ils prenaient Word, des petites typos genre comics en MS, et puis ils faisaient leurs petites plaquettes avec un petit logo ou un autocollant, et voilà.
Vous rigolez pas, hein.
Non. Je le dis, ça fait peut-être rire, mais en même temps, je suis sûre que dans la salle, il y en a encore qui... À qui ça fait penser?
On ne stigmatise pas.
Non, pas du tout. Mais voilà, ça arrive. Et donc, on a restructuré tout. On a effectivement, comme Florence le disait tout à l'heure, on a vécu, nous aussi, une fusion avec une autre grosse association du domaine de la protection de l'enfance, où il a fallu globalement repenser la communication interne, notamment, et expliquer le projet. Et on s'est retrouvé avec... un patchwork global et une réorganisation complète à faire sur tous les champs de compétences et sur tous les établissements. Aujourd'hui, on en a 100, mais aujourd'hui, on a un service de com qui est représenté par deux personnes, formidables, avec lesquelles j'ai beaucoup de chance de travailler, qui prépare et qui a travaillé sur une charte graphique. Tout le monde se met au même niveau. Tout le monde sait aujourd'hui, en 3 minutes, présenter la sauvegarde sur tous ces champs, sur tous les publics qu'on accompagne, de façon claire et précise, et derrière, réussit à emmener n'importe qui, en 3 minutes, sur notre projet, sur nos projets, et sur les différents projets des pôles. Et c'est ça qui fait une force également, c'est-à-dire que chacun est capable de présenter la sauvegarde dans son coin, mais avec le même discours qui est porté par tout le monde. Et du coup, économiquement parlant, c'est extrêmement intéressant pour nous, puisqu'on a le même discours auprès de tous les partenaires, que ce soit les collectivités qui nous financent, les partenaires privés, les mécènes, et le public également, et tout le public qu'on accompagne, c'est-à-dire le grand public, mais également nos bénéficiaires, qui eux aussi sont capables de parler de nos projets et sont pas juste, restent pas juste dans leur bulle. Et puis... On fait également beaucoup de pédagogie parce qu'il y a des établissements et il y a le secteur social, en tout cas le social et le médico-social, est plutôt, j'ai envie de dire, et je voudrais choquer personne, mais je trouve en retard sur la communication. Très certainement parce qu'il n'y a pas eu assez de pédagogie, parce qu'on s'y est mis peut-être plus tard également, et puis parce que ce n'est pas considéré comme un enjeu vital face à leur quotidien. C'est-à-dire que quand on s'occupe d'enfants malheureux, d'enfants qu'on a retirés à leur famille, la problématique de comment mettre en avant l'établissement, comment se mettre en place et dégager un petit peu de temps pour créer un événementiel, comment prendre du temps pour recevoir un mécène ou des partenaires, ça paraît complètement hors de propos, on s'en fiche de ça. Sauf que c'est parce qu'on parle de nous, il suffit pas d'avoir, de savoir faire, il faut savoir dire qu'on sait faire. Donc c'est extrêmement important. Et donc progressivement, Je me rends compte là, depuis que je suis arrivée, donc il y a un petit peu moins de 2 ans, que la pédagogie fait vraiment son rôle, que c'est essentiel et que quand on arrive à convaincre avec une première expérience avec nos équipes, une première expérience d'accompagnement sur un projet construit de A à Z, première expérience de recherche de partenaires, première expérience de construction d'un événement, c'est comme si on était... ils sont convaincus et ils en redemandent. Et naturellement, maintenant, à chaque fois qu'il y a besoin de s'engager, besoin de communiquer ou besoin de faire parler d'une action à l'interne ou à l'externe, ça devient de plus en plus automatique et on passe par nous. Voilà. Et donc ça, j'en suis assez satisfaite. Voilà.
Vous avez créé le besoin.
On a créé le besoin, c'est exactement ça. Voilà, on a marketé notre service.
Vous avez communiqué sur ce que vous faites.
On a communiqué sur ce qu'on faisait, sur l'intérêt.
Juste, vous avez parlé de la question du mécénat. Donc, le mécénat, finalement, c'est aller à la rencontre d'entreprises pour soutenir vos projets. En quoi, aujourd'hui, par rapport à votre politique du mécénat, la communication est un atout?
Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, pour nous, c'est, ça doit absolument être travaillé en synergie. On peut pas, l'un ne va pas sans l'autre. C'est un trépied. Enfin, j'en suis convaincue. Le développement, le mécénat et la communication ne peuvent pas être pensés autrement que dans leur globalité et dans leur ensemble. Des projets marketés, des projets qui sont pensés en amont, sont des projets qui aident, enfin en tout cas qui nous aident. Quand les projets sont marketés, excusez-moi, ils nous aident forcément à convaincre le mieux possible les mécènes. Quand on arrive à poser les bases, à montrer à un mécène que notre projet tient la route, qu'on sait où on va, qu'on sait ce qu'on va en faire, qu'on sait exactement pourquoi c'est lui qu'on va voir, où il va s'y retrouver, quelles sont les valeurs communes, il est convaincu. Quand on est capable aujourd'hui de valoriser les mécènes en termes de présence dans les réseaux sociaux, parce que ça aussi c'est extrêmement important, on s'en sert à l'interne et à l'externe, c'est-à-dire qu'un projet porté par un établissement ou un pôle va être relayé aussi à l'interne via les réseaux sociaux, alors Facebook, Twitter et autres. On n'a pas exactement le même discours sur les uns et les autres, mais voilà, notre site internet également. On essaie de porter nos actions et d'en parler au maximum, et de parler et de valoriser nos mécènes. Ça, c'est extrêmement important pour eux. Aujourd'hui, c'est cet échange qui les intéresse aussi. Ils s'intéressent de plus en plus, les entreprises privées s'intéressent de plus en plus à l'associatif, aux démarches RSE, évidemment. Ont une conscience un petit peu plus forte, en tout cas, de la valeur et de l'intérêt qu'ils peuvent porter au soutien de nos structures. Et si on arrive à leur montrer que finalement c'est facile, qu'on est là, qu'on est des professionnels et qu'on va valoriser leur présence, leur échange, c'est tout bénef pour nous. Ça fonctionne très, très bien. Et puis, on est aussi capable de mesurer de plus en plus l'action de la communication. Et ça, c'est essentiel pour les mécènes. Aujourd'hui, de ce que j'ai pu constater, c'est pas l'avantage fiscal qui va motiver une entreprise à nous faire un don. C'est d'abord le partage de valeurs et le sens qu'il va y trouver. Mais c'est aussi ce qu'on appelle, chez nous en tout cas, la théorie du premier ou du dernier kilomètre. C'est... Avec votre don, enfin en tout cas sans votre don, on n'arrivera pas à lancer le projet. Ou sans votre don, on n'arrivera pas à le créer, tout simplement. Donc, voilà. Et globalement, tous les outils qu'on utilise en termes de communication nous aident à convaincre également les mécènes. Et donc, nous aident à aller plus loin et à construire et à continuer à innover, pour le coup.
Merci pour ce témoignage. Je retiens la théorie du premier ou du dernier kilomètre. Ouais. Je pense que c'est un bon conseil que vous avez donné. Alors, je vais passer la parole à Émilie. Alors, pour le coup, Émilie, vous, la question des freins culturels à RSF, vous ne connaissez pas, parce que finalement, on peut dire presque que la communication est constitutive d'RSF, à la fois par les personnalités qui composent cette association et puis aussi vos moyens d'action. Donc, ça me semblait aussi important en termes de miroir de vous donner la parole sur ce sujet-là, comment vous abordez la communication dans une association qui a fait de la communication un de ses piliers.
Oui, bonjour à tous. Effectivement, quand Jean-Baptiste, au début, est venu me voir pour discuter de ce sujet, j'ai pris conscience du fait que la communication faisait vraiment partie de l'ADN de RSF. Alors évidemment, au fur et à mesure des années, les techniques, les moyens, les méthodes de communication se sont diversifiées. Mais je crois que depuis le départ, depuis plus de 30 ans, c'est une organisation qui a compris que... faire le buzz, c'est-à-dire à un moment donné ne pas considérer l'événement et le fait de convoquer l'opinion publique sur une thématique qui était celle de son combat, était nécessaire, important et faisait partie même des missions de l'organisation. Donc ça s'est exprimé, ça s'exprime toujours de façon un peu spectaculaire, c'est-à-dire avec notamment des événements, des actions qui sont qui peuvent être considérées comme militantes, mais qui se situent en fait toujours aux abords. C'est-à-dire quand on fait une action militante, et RSF n'est pas la seule à faire ça, évidemment, on pense à toutes les associations écologistes, etc. Mais voilà, ACT UP, etc. Mais quand on fait une action militante, derrière, évidemment, on convoque la presse, on met le doigt sur un sujet ou sur la visite d'un dictateur pour ce qui nous concerne à Paris, etc. Et à un moment donné, on fait, à travers cette action-là, on fait en sorte que l'opinion publique, les gens, s'intéressent au sujet sur lequel on travaille et au combat qu'on porte. Alors, probablement que quand on est... dans la défense de la liberté de l'information, qui est un sujet qui peut paraître un peu éloigné des préoccupations des citoyens, on a besoin de recourir à ce type d'action. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de l'ADN de RSF et qu'on continue avec des formes d'action très différentes à utiliser dans notre stratégie de communication. Je vais prendre un tout petit exemple donc pour parler par exemple des journalistes turcs emprisonnés. Avant qu'il y ait les cas de journalistes français emprisonnés en Turquie, il y a eu des années de détention, des personnes mises en détention arbitraire pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Et évidemment, ce sujet-là semblait assez loin de la préoccupation des Français et des médias français. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec un artiste qui s'appelle C215, qui a dessiné au pochoir, dans toute la ville, dans tout Paris, pendant une nuit, avec nous, avec les équipes de RSF, les portraits de ces journalistes turcs emprisonnés. Donc, évidemment, à ce moment-là, il y a des caméras qui suivent, il y a un dispositif qui se met en place, il y a des militants, des personnes qui font partie de RSF, qui accompagnent et qui, du coup, dans la ville, rentrent en contact avec les individus. Et surtout, sur les réseaux sociaux, il y a pendant des semaines et des mois les photos de ces journalistes turcs emprisonnés qui tournent parce que les gens connaissent l'artiste et que du coup ça les interroge, il y a un hashtag qui est créé. Et donc en fait, derrière ce que j'explique là, c'est que finalement, aujourd'hui, quand on fait un événement, on pense toujours effectivement au web, à comment est-ce qu'on peut faire durer ça sur les réseaux sociaux, etc. Mais le point de départ est toujours le même, c'est celui de dire à un moment donné, pour convoquer l'opinion publique et pour faire parler d'un sujet, chez RSF et dans d'autres associations, on utilise l'événement. Et ça, c'est à mon sens quelque chose qui est intéressant peut-être pour vous vous inspirer, parce que l'événement, ça peut être tout un tas de choses et c'est souvent lié au fait de détourner l'actualité, c'est-à-dire d'utiliser quelque chose qui se passe dans le monde ou qui se passe en France ou qui se passe dans un secteur d'activité pour dire je vais faire en sorte que à ce moment-là, on parle de mon sujet, on parle de mes préoccupations et on parle du combat que je mène ou de ce pourquoi je travaille.
Oui, en fait, c'est un terme presque un peu guerrier, puisqu'on parle souvent de guérilla marketing ou de communication de combat ou communication militante.
Oui. C'est vrai qu'on est toujours à la frontière le militantisme et la communication. C'est vrai qu'on est... sauf que, pour le coup, par exemple, chez RSF, on est dans un moment où l'organisation n'est plus constituée que de militants. C'est-à-dire, moi, je rejoins l'organisation il y a près d'un an. Je n'étais pas militante pour la liberté de l'information. J'étais professionnelle de la communication. Et dans Reporters sans frontières, effectivement, aujourd'hui, on a des gens qui travaillent là parce qu'ils sont convaincus de la cause qu'ils défendent, évidemment, mais surtout parce qu'ils sont professionnels de l'activité qu'ils font, à la fois sur le plaidoyer, sur la recherche, enfin, sur toutes les activités qu'on mène, l'assistance, distance, etc. Et donc, si vous voulez, le fait de préserver des méthodes d'action et de communication qui sont des méthodes militantes avec un tissu social interne qui, petit à petit, se modifie, c'est vraiment un enjeu important pour nous. C'est-à-dire que aujourd'hui, on doit perdurer, on doit faire, continuer à faire vivre cette action militante et qui fait partie de la communication de RSF avec un personnel et des gens qui travaillent là et qui sont dans une posture qui n'est plus nécessairement celle du militantisme. Donc c'est vrai que c'est un moment particulier et en tout cas un enjeu important en termes de communication parce qu'à mon sens, si on perd ça, on perd une partie de l'ADN et de l'image de RSF qui s'est constituée quand on ferme les yeux et qu'on pense à RSF, on pense à la provoque, des actions un peu incroyables, la flamme olympique. Enfin, on a tout un tas de choses dans l'imaginaire, pas que des choses positives d'ailleurs, mais en tout cas tout un tas de choses qui, à un moment donné, font que ils ont réussi par le passé et on essaie de poursuivre à mettre ces sujets-là sur le devant des préoccupations de l'actualité.
Et juste en termes de techniques de communication, comment vous continuez à innover, quelles compétences vous recherchez, enfin comment vous continuez à travailler pour toujours être à la pointe et tirer l'actualité sur vous, comme vous pouvez le dire.
Alors, du coup, évidemment, on ne peut plus se contenter uniquement, je dirais, des grandes manifestations militantes et on doit pour autant continuer à faire vivre l'image, l'ADN, les combats, les grandes valeurs qu'on exprime, etc. Et donc pour ça, souvent, enfin de plus, on utilise depuis quelques années la publicité. C'est-à-dire une des dernières campagnes de publicité de Reporters sans frontières, c'était les dictateurs qui faisaient un doigt d'honneur en disant voilà ce qu'on pense de la liberté de l'information. Et cette campagne de publicité, elle porte elle porte quelque chose qui est l'équivalent, je dirais, en termes d'image et d'impact que quand il y a une grande action sur le toit de Notre-Dame de Paris ou ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on essaie de poursuivre à travers d'autres moyens, d'autres médias et d'autres formes de communication d'interpeller d'abord, c'est-à-dire de dire mais qu'est-ce que c'est ce Poutine qui me fait un doigt d'honneur, et derrière de pouvoir faire passer des messages en conservant ce qui constitue la marque entre guillemets dont on a pas mal parlé aujourd'hui. Voilà.
Merci beaucoup. Alors, par rapport aux outils, on va passer la parole à Ismaël. Ismaël, c'est certainement un des spécialistes du numérique et du secteur associatif en France. Tu vas nous raconter LOASO, mais justement, ça me paraissait important comme première question que tu nous fasses un peu d'état des lieux sur aujourd'hui l'enjeu du numérique pour le secteur associatif.
Alors, c'est une question assez vaste, évidemment, et on a vu que ça revenait un peu en filigrane dans l'ensemble des interventions, cette question du numérique, d'abord parce que c'est un nouveau territoire. C'est relativement récent, hein, le numérique, globalement, ça a moins de 10 ans pour les associations. On existe d'ailleurs, nous, depuis moins de 10 ans. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a une énorme accélération de la prise en main des outils numériques par les associations. Il y a plein de faits qui traduisent ça, hein, à commencer d'ailleurs par le village numérique qui est cette année extrêmement présent au Forum des associations. Juste une simple question déjà pour voir, combien d'entre vous ont un site internet pour leur association? Si vous pouvez lever la main. C'est massif. Et c'est normal, hein, aujourd'hui, plus de 3 associations sur 4 ont un site web. C'était pas du tout le cas il y a 5 ans. Autre question pour voir qui a pour son association une page Facebook ou un compte Twitter. Là aussi, c'est assez massif. Et c'est pas étonnant, c'est le chiffre, c'est 66% des associations.
Mais ici, on a la crème de la crème.
Hein. Exactement. Tout ça pour dire que finalement, les outils sont en place et les associations commence vraiment à s'en emparer, que ce soit pour le site web, pour les réseaux sociaux, pour d'autres outils. Maintenant, c'est pas parce qu'on est sur un outil qu'on s'en sert bien, et c'est là que un petit peu le bas blesse. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la question que se posent les associations, c'est comment je me sers de ces outils et comment je m'en sers efficacement. Pour l'anecdote, quand on a lancé LOASO, il y a donc 9 ans, la question qu'on nous posait à peu près tous les matins, c'était « Mais pourquoi je vais aller sur Internet? À quoi ça va servir à mon association ?» Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. C'est comment je fais, quels sont les bons outils et comment je vais faire pour être efficace sur Internet, notamment dans ma communication. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que en réalité, c'est pas si différent de ce que vous faisiez avant. C'est-à-dire que les associations ont sur Internet un avantage très très fort par rapport à d'autres acteurs économiques, c'est qu'elles ont quelque part la communauté chevillée au corps de leurs actions. Et ça, c'est un avantage très très fort parce qu'Internet fonctionne par communauté. Une fois qu'on a compris ça, on peut faire beaucoup de choses et j'y reviendrai.
Je précise peut-être la question de communauté.
En fait, ce qui change fondamentalement sur Internet, c'est quoi ? Alors, je vais parler un peu de paiement, puisque LOSO, nous sommes un site Internet qui permet très simplement aux associations de collecter des paiements en ligne, tout type de paiement. Et ce qui a changé avec Internet, c'est que quand... prenons l'exemple du don. Quand il y a 10 ou 15 ans, vous vouliez collecter des dons, vous faisiez, ça s'appelait une souscription nationale dans certains cas, vous faisiez de la communication très descendante, et puis vous essayiez de récupérer des chèques. C'était long, c'était coûteux, et ça marchait pas toujours très bien, notamment quand on était une petite ou une moyenne association, parce qu'on n'avait pas forcément de moyens. Ce qui a changé avec Internet, c'est que aujourd'hui, non seulement c'est gratuit, mais en plus, si vous vous débrouillez bien, le donateur, le contributeur peut devenir un ambassadeur, c'est-à-dire que vous pouvez enclencher des dynamiques virales où quand une personne va contribuer à votre association, vous allez la transformer en un porte-voix finalement, et elle va aussi pouvoir elle-même diffuser un message et le relayer à sa propre communauté. C'est ce qu'on appelle l'effet viral, et ça donne aujourd'hui le fait que des petites, des moyennes, même des toutes petites associations arrivent à avoir des portées gigantesques. Je vous donne un simple exemple. Dans le cas de pétitions en ligne, par exemple, on a vu l'association Bloom qui a fait juste une des plus grosses pétitions en France sur le chalutage profond. Simplement par un effet viral, par le fait qu'elle a réussi à bien médiatiser sa campagne, et pas parce qu'elle a dépensé des centaines de milliers d'euros en communication. On voit aussi ça sur LOSO, hein, où on a des exemples d'associations qui arrivent. On a tendance à dire, nous, que la collecte de fonds sur Internet, c'est essentiellement de la communication. Et on voit aussi des exemples d'associations qui arrivent à collecter des centaines de milliers d'euros quand elles s'y prennent bien et quand le contributeur devient le cœur de la campagne. C'est-à-dire, c'est vraiment ça le changement de paradigme de communication qui existe sur Internet, c'est que vous n'êtes plus tout seul. Si vous arrivez à embarquer votre communauté et à en faire des ambassadeurs, vous pouvez déclencher un mouvement, tout simplement.
Je t'écoute. Hein. mais du coup, sur ce constat, aujourd'hui, à LOSO, vous travaillez combien d'associations ?
Alors aujourd'hui à LOSO, c'est un peu plus de 33 000 associations qui sont partenaires de notre plateforme. Et ce qu'on cherche à faire finalement, c'est à simplifier la vie des associations pour leur paiement en ligne, à leur permettre de récolter des cotisations, des dons, d'organiser des événements également. Avec un modèle sans doute un petit peu atypique qui est que habituellement sur Internet, quand quelqu'un vous propose de gérer un paiement, il va prendre une commission ou un frais d'inscription. Chez nous, c'est pas du tout le cas, on est complètement gratuit et on repose nous aussi finalement sur la communauté et sur la participation, puisqu'on est sur un modèle au pourboire, c'est-à-dire que quand un de vos bénévoles, un de vos adhérents va payer en ligne pour votre association sur LOSO, on va lui garantir que 100% de ce qu'il est en train de payer retourne bien à votre projet associatif et lui laisser en plus la possibilité de laisser un pourboire à l'association. C'est un modèle qui plaît à date beaucoup.
Ouais, d'ailleurs, on va l'utiliser, on va mettre un petit chapeau à la sortie de la conférence, on va voir si ça marche.
Et pour donner effectivement quelques chiffres, à date, on est à un peu plus donc de 33 000 associations qui utilisent nos outils, plus de 50 millions d'euros qui ont été collectés. Et comme je le disais tout à l'heure, ce qui est très impressionnant dans le modèle, c'est que c'est en train de s'accélérer diablement. C'est-à-dire que 33 000 associations, c'est somme toute assez peu hein, sur le nombre d'associations qui existent en France. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a 15 000 qui sont inscrites dans les 12 derniers mois et qu'on voit, nous, un train très, très impressionnant. Ce qui se confirme aussi par les chiffres, hein, j'en parlais tout à l'heure, à date, c'est seulement 10% des associations qui ont déjà installé un module de paiement en ligne, ou en tout cas qui l'utilisent de façon importante sur leur site web ou sur un site tiers comme LOSO. Et les projections, c'est que dans les 3 à 5 ans, ça sera autour de 50%. Donc il y a un vrai sujet d'accélération sur le sujet.
Ouais, juste une dernière petite question. J'ai entendu dire qu'il y a des associations qui utilisaient ce type
type d'outils, qui est des outils de collecte en ligne, non pas pour collecter de l'argent, mais pour communiquer. Tu confirmes ça ?
Tout à fait. Alors, c'est notamment le cas pour le crowdfunding, hein, qui est là aussi un mouvement de fond. Et ce qu'on constate, nous, c'est que tout à l'heure, Émilie disait, communiquer, c'est avant tout faire événement. On est évidemment tout à fait d'accord avec ça. C'est la base. Sur Internet également, où notamment on est dans l'ère de l'instantanéité, et du coup, il faut vraiment réussir à faire événement. Et finalement, un crowdfunding, aujourd'hui, de par sa portée médiatique, de par l'image qu'il renvoie, est un événement en soi. Et du coup, on a beaucoup d'associations qui utilisent en fait ces outils-là, et notamment les campagnes de crowdfunding, pour faire événement et pour communiquer sur leurs projets, sur leurs actions. La bonne nouvelle, c'est que sur ce type de collecte, vous êtes non seulement en train de communiquer, mais aussi en train de récolter des fonds. Donc c'est un peu coup double.
Ok, merci Ismaël pour cette intervention. Peut-être qu'on va créer un espace de respiration. Et du coup, s'il y a des premières questions au sein de la salle, n'hésitez pas. Alors c'est toujours la première qui est la plus difficile, mais il y aura bien un courageux. Ah, j'en vois au moins trois des courageux. Donc il y avait une première question. Allez madame, on va commencer. Je ne sais pas s'il y a un micro. Ouais. Après monsieur, et puis je ne sais pas si encore... Madame d'abord.
Oui, bonjour. Je viens de l'École internationale de Paris et j'avais une question à Madame Boulet concernant les médias. Comment faites-vous pour interpeller les médias quand vous faites des actions militantes?
Alors, de façon très classique, je dirais, en appelant les rédactions. Notamment les agences de presse principalement, hein, qui du coup sont celles qui vont derrière permettre de diffuser l'information dans d'autres rédactions, en prenant bien soin quand on rencontre des journalistes de garder contact avec eux, de les intéresser d'une façon ou d'une autre au combat qu'on est en train de mener. Donc on est dans le registre des relations presse classiques, comme on le fait dans toutes les assos, dans toutes les organisations publiques ou privées. Voilà, et du coup, quand il y a un gros événement ou quand il y a une action un peu rebelle, entre guillemets, souvent, ça les intéresse parce que c'est quelque chose qui intéresse leur audience, leur lectorat, etc.
Oui, il faut toujours se dire qu'est-ce qui va intéresser le journaliste pour pouvoir trouver la bonne porte d'entrée, quelque part.
Oui, d'une façon ou d'une autre.
On va peut-être prendre deux questions à la volée. Il y avait monsieur... on va prendre trois questions à la volée. Et puis, il y avait madame là-bas. Oui, vous avez le micro. Alors,
oui, bonjour. En fait, ma question, c'est plutôt par rapport à la communication. Enfin, c'est peut-être un peu difficile à répondre, mais quel est un peu le moyen le plus efficace? Parce que j'avoue, je me perds un peu dans la communication entre est-ce qu'il vaut mieux faire de l'événement ou du Facebook Ads ou faire une pub dans des magazines ou est-ce que contacter des médias online comme des blogs, etc. Et j'ai du mal à savoir quel est le moyen qui prend le moins de temps et qui ont une rentabilité plus vite.
Ok, première question. On va passer la parole à monsieur qui va poser sa question également. Il y a monsieur là, au premier rang. Il y avait après une autre question juste au deuxième rang. Voilà, et puis après, on va répondre.
Moi, j'avais une question pour Émilie Boulet également. C'est savoir si vous évaluez, comment vous évaluez les risques juridiques éventuellement de procès lorsque vous faites ce type de...
Elle avait l'air en prison. Madame, et puis après, on va répondre.
Merci. Bonjour, moi j'avais une question pour Monsieur Ismaël Lemouel par rapport à Eloasso. Ma question se portait sur les reçus fiscaux que vous proposez, du coup, lors des campagnes de crowdfunding que vous proposez. Et j'avais deux questions. Est-ce que vous permettez, est-ce qu'il y a dans votre idée une proposition pour émettre les reçus fiscaux pour les associations sans campagne de crowdfunding au préalable, d'une, et de deux, si oui, quelles sont les données personnelles des donateurs? Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous les gardez ou est-ce que, enfin, du coup, comment vous vous en sortez? Okay. Merci.
On va répondre déjà à ces trois questions. S'il y a encore deux, trois questions après, on les prendra. Alors, je vais essayer de distribuer la parole. J'espère que mes intervenants... se sentiront prêts. Alors sur la première question qui est finalement la question du rapport, les moyens les plus efficaces en termes d'investissement et de temps, peut-être que mes intervenants de droite peuvent essayer d'y répondre. Et puis après, il y aura une réponse pour Elo Asso et une réponse pour Émilie. Ça vous va ?
Alors en effet, sur la question des moyens et le fait d'arbitrer et de savoir quel outil choisir parmi la multitude des outils et des actions de communication qui existent, c'est pas évident. Et il n'y a pas de bonne recette, en fait. Sinon, on ferait tous la même chose et ce serait hyper facile. Par contre, si je peux vous donner un conseil
C'est d'acheter simple. Ton
livre,
c'est ça.
C'est ça. Si je peux vous donner un conseil pour au moins savoir à peu près par quel bout prendre les choses, regardez déjà quelles sont vos cibles et essayez de rentrer le plus en détail. Alors, je ne sais pas à qui je m'adresse, donc ce sera assez vague. Je n'ai pas vu qui avait posé la question. Essayez de regarder le plus en détail possible quelles sont vos cibles. Quand on parle de détails, c'est vraiment savoir à qui je m'adresse, quelles sont les différentes typologies de cibles. Alors ça, c'est très marketing comme terme, on sait à peu près le faire. Mais surtout, savoir concrètement à qui vous parlez. Essayez, il y a une méthode qui s'appelle la méthode persona, essayez de donner un prénom aux différentes cibles auxquelles vous vous adressez. Essayez vraiment de rentrer dans le détail de ce que sont ces cibles. Quelles sont ses motivations? Pourquoi est-ce qu'elle vient chez vous? Qu'est-ce qu'elle attend? Et puis surtout, quelle est sa journée type? Et avec ça, vous saurez à quel moment vous pouvez rentrer en contact avec elle. Et c'est de ces points de rencontre avec la cible que vous pouvez... c'est à partir de ces points de rencontre que vous pourrez du coup choisir l'outil ou l'action qui sera la plus pertinente pour rentrer en contact avec elle.
Caroline, un petit complément?
Oui, je voudrais juste rajouter qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de moyen de communiquer facile et pas cher et peu chronophage. Si on décide de communiquer, il faut le faire bien et il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de connaître effectivement ses cibles, comme le disait Amélie. Il faut savoir ce qu'on veut dire. Il faut savoir qui on veut toucher. Il faut savoir à qui et comment on veut le dire. Et puis il faut surtout savoir quelle est la finalité. Je ne vais pas prendre la parole sur Facebook pour parler de quelque chose de super essentiel et extrêmement porté sur l'économie, parce que ce n'est pas exactement les collectivités publiques qui vont m'entendre. Je ne vais pas parler à des personnes plus âgées sur Snapchat, parce que forcément, ils n'y sont pas. Détrompe-toi, ouais. Acheter, pareil, se poser la question de savoir, sur les médias, sur l'achat d'espace média, acheter une page de pub dans tel ou tel magazine, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'investir autant parce que acheter une page, entre nous, ça sert strictement à rien. Il faut quand même essayer de... C'est la récurrence qui est intéressante. Donc voilà, se poser juste la question de à qui je parle, comment je lui parle, et surtout qu'est-ce que je veux dire, et qu'est-ce que j'attends à la fin de ça. Et il faut prendre le temps, c'est tout. Il n'y a pas de miracle, il faut prendre le temps. Sinon, on serait tous... ça marcherait toujours super bien. Même les réseaux sociaux, c'est quand même super facile de poster quelque chose sur Facebook. Pour autant, faut réfléchir 2 secondes à ce qu'on dit. Faut réfléchir, voilà. Donc, faut prendre un petit peu de temps quand même.
Alors malheureusement, nous, le temps, ce matin, on ne l'a pas.
Dommage.
Donc, je vais passer la parole peut-être à Iceman et puis...
Je vais répondre à votre question. D'abord, je voulais revenir sur quel est le moyen le plus efficace, parce que c'est une question qu'on nous pose assez souvent. Et ce que j'ai coutume de répondre, c'est que en fait, Internet est un peu magique de ce point de vue-là, c'est que vous pouvez essayer un nombre illimité de fois. Il y a une citation de Confucius que j'aime bien, qui est que la plus grande gloire, c'est pas de ne jamais tomber, c'est de toujours se relever. Et Internet permet ça. Ce que ça veut dire, c'est que ce que j'essaye de vous dire, c'est que finalement, pour moi, ce qu'il faut faire pour une communication réussie sur Internet, c'est tester et encore tester, et vous allez tomber sur quelque chose qui marche. La bonne nouvelle, c'est que ça vous prend pas tant que ça de temps et que c'est gratuit. Je vous donne pour vous donner un exemple encore plus précis. Par exemple, sur Facebook, vous allez pas tout de suite réussir à définir quels sont les messages qui vont toucher votre communauté, qui vont lui faire partager les publications, par exemple. Par contre, vous pouvez essayer plein de choses. Et à un moment, vous allez tomber sur quelque chose qui fonctionne bien. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra investir assez lourdement sur le sujet. Concernant la deuxième question sur les ressources fiscaux et les données, je vais commencer par les données parce que c'est un point extrêmement important chez nous. Il est assez fréquent que chez certains de nos collègues qui font des plateformes de collecte en ligne, les données des contributeurs soient utilisées et revendues à d'autres associations. Par exemple, une association environnementale, ça va être assez facile de revendre les données à une autre association. C'est quelque chose qu'on ne fait pas, qu'on s'engage à ne pas faire dans nos conditions générales. Donc les données sont bien les données de l'association quand un contributeur va contribuer sur la plateforme LOASO. Non seulement c'est les données de l'association, mais en plus on cherche à faire en sorte que l'association puisse les enrichir. C'est-à-dire que sur l'ensemble de nos formulaires de paiement, vous allez pouvoir demander à vos contributeurs de renseigner certains champs supplémentaires, obligatoires ou non, et ça va vous permettre d'enrichir votre base de données. Là encore un exemple pour se figurer un petit peu comment ça fonctionne. Si vous êtes une fondation de grande école, vous pouvez demander l'année de promo de votre contributeur, et puis vous allez pouvoir le récupérer directement. Toutes ces données-là, elles sont à vous. Elles sont téléchargeables complètement gratuitement, là encore, et récupérables également en API si vous avez des systèmes informatiques un peu plus développés. Donc dans l'idée, en tout cas, notre vocation, c'est vraiment que l'ensemble des données appartiennent à l'association et que LOASO soit finalement une sorte de PayPal où l'association va pouvoir très simplement payer et enrichir ses données sur l'ensemble des verticales. Et ensuite, pour répondre à votre question plus spécifique sur les reçus fiscaux, qui est un peu technique, d'ailleurs, je vous encourage à passer sur le stand d'LOASO où on a toute une partie de notre équipe qui est là pour répondre à ce type de questions. Mais pour y répondre très rapidement, les reçus fiscaux sont bien sûr configurables sur l'ensemble des types de paiements de la plateforme, que ce soit le don, le crowdfunding, l'adhésion, la billetterie. Il faut rester évidemment dans le cadre légal, c'est-à-dire que la proportionnalité de la contrepartie au don soit inférieure à 25% de la valeur faciale. Mais c'est bien tout à fait possible que LOASO émette pour votre compte et toujours gratuitement un reçu fiscal sur la transaction, y compris sur les formulaires de don.
Florence, tu avais quelque chose à rajouter sur la partie outils de communication.
Outils de communication, en général, dans une association, on utilise plutôt ce qu'on appelle le hors-média, c'est-à-dire l'événementiel, les relations presse, parce que le ticket d'entrée du média pur et simple est quand même assez élevé. Et comme le disait tout à l'heure ma collègue, parfois les associations se font, entre guillemets... convaincre de faire quelques insertions publicitaires de ça dès là, qui coûtent quand même très cher en pleine page simple, et qui n'ont aucun impact en termes de communication, puisque ce qui fait l'impact, c'est la répétition du message. Donc il faudrait avoir un investissement média de départ suffisamment important pour que ça ait du sens. Donc clairement, pour moi, ce qui relève des investissements médias au sens strict du terme concerne pas directement une association de taille moyenne, si ce n'est effectivement l'apparition aussi de nouveaux formats qui sont en train de se développer, des formats par exemple médias vidéo qu'on utilise sur les réseaux sociaux, qui sont une nouvelle forme de faire de la publicité, mais qui demain sera plus nécessairement envisagée hors digitalisation, hors diffusion, hors digital. Donc il y a des choses comme ça. Et après, un des intérêts aussi du digital, c'est la traçabilité des campagnes. C'est-à-dire que souvent dans la communication, le problème, c'est les études d'impact derrière. Qu'est-ce qui permet de mesurer l'efficacité d'une campagne média, par exemple ? Y a des techniques qui existent, mais c'est ce qu'on appelle des études d'impact qui coûtent de l'argent, c'est du quali, c'est du quanti. C'est bête et idiot, mais un site internet, vous avez un Google Analytics, vous pouvez savoir précisément qui vient vous voir, dans quelle rubrique, voilà. Vous faites une campagne de liens sponsorisés, vous avez des résultats statistiques. Tout ce qui est en ligne permet quand même des données statistiques consolidées qui sont très intéressantes quand justement on veut mesurer l'impact de ces campagnes auprès de ses cibles.
Émilie, la question sur le juridique.
Oui, alors bon, rapidement aussi. D'abord, effectivement, on a un conseil juridique qui est d'ailleurs pro bono. Et si dans vos associations, souvent les cabinets d'avocats, les juristes, etc., sont plutôt ouverts à faire du conseil gratuitement quand on a des. Donc pour RSF, évidemment, on a quelqu'un qui nous répond quand on a des opérations qui peuvent poser des questions juridiques. Et c'est aussi à nuancer pour. pour deux choses. La première chose, c'est que souvent, en termes d'image, la partie adverse, je dirais, a plus à perdre d'attaquer une association qui aurait mené une action un peu militante, par exemple, si c'est dans un lieu public ou si c'est... Enfin, en général, en général, il n'y a pas d'action juridique portée jusqu'au bout. Hein. On peut avoir des menaces d'amende ou de, mais finalement, en discutant et en disant voilà, nous, on ne le faisait pas contre vous, mais on le faisait pour défendre cette cause, etc. etc. En discutant, en général, l'affaire se tasse, je dirais. Et par ailleurs, on essaie autant que possible de trouver aussi de discuter. Quand on a fait l'opération avec l'artiste C215, on a contacté les mairies. Toutes les mairies d'arrondissement pour leur expliquer, pour leur demander si elles étaient d'accord pour qu'on puisse travailler sur dans le quartier. Enfin, on n'agit pas toujours dans le secret absolu et de façon systématiquement contraire à la loi. Ça dépend des cas et en tout cas, on essaie de. Mais après, souvent, effectivement, les opérations finissent quelques heures en garde à vue pour les gens qui font partie de l'action, mais ça se résout. Ça se résout rapidement, je dirais, jusqu'à présent.
Bien, j'ai proposé à nos intervenants de prendre une petite carte blanche de 2 minutes par intervenant avant de passer à la conclusion de cette conférence, c'est-à-dire qu'ils peuvent vous donner soit un conseil, soit un enjeu, soit une anecdote, donc je ne sais absolument pas de quoi ils vont parler. Mais je trouvais voilà, une manière un peu ouverte de finir avant la conclusion. Moi, juste, pour ma carte blanche, je voulais juste vous dire, alors je vais prendre moins de 2 minutes parce que l'intérêt c'est de leur laisser la parole, mais renseignez-vous auprès de vos RH ou vos DG, parce que les Uniformations ou Unifaf font souvent des formations gratuites sur les enjeux de la communication, et donc ça peut être un moyen de vous former en interne par des professionnels au travers de vos OPCA. Donc sur les questions de la communication, vous avez souvent des outils, que ce soit des logiciels gratuits comme HelloAsso, des formations qui peuvent être gratuites, des conférences, etc. Et donc finalement, la montée en compétences peut se faire à un moindre coût. Alors il y a toujours la question de l'investissement humain, mais il y a quand même pas mal de choses qui sont possibles pour pouvoir monter en compétences sur les aspects de communication. Qui veut prendre la parole en premier sur la carte blanche ?
Bon, je vais juste... Alors, 2 minutes, je pense que ce sera juste trop. Moi, je voudrais juste... j'ai un message à vous dire, c'est battez-vous. Battez-vous pour convaincre le CA s'il n'est pas convaincu de l'intérêt de la chose. Battez-vous pour tester, pour essayer, pour déplacer les curseurs, pour... Voilà, portez votre message d'une façon ou d'une autre, essayez, tombez, relevez-vous. Aujourd'hui on est dans un secteur extrêmement concurrentiel. Chacun est capable de communiquer d'une façon ou d'une autre avec très peu de moyens et avec énormément de moyens. Mais on a déjà pu voir, et on l'a dit aussi, c'est pas parce qu'on a 150 millions de dollars qu'on peut faire mieux que quelqu'un qui a...
Ça aide,
d'accord. Mais n'empêche que ce qu'il faut quand on n'a pas forcément beaucoup de moyens, c'est être malin. Et puis travailler ensemble, partager, innover, tester. Voilà, donc essayer, quoi. Essayer. Pardon ? Oui, alors j'ai travaillé dans des petites associations également. J'ai travaillé côté agence aussi, en pro bono. Donc il y a toujours des gens qui sont là pour aider. Enfin, il y en a. Il faut chercher, il faut demander, en fait. Si on ne demande pas, on n'a rien, c'est clair. Et en règle générale, si on demande gentiment et qu'on arrive à convaincre avec un chouette projet, on se fait accompagner par plein de gens. Il y a énormément d'agences et de grosses agences qui sont prêtes à conseiller pour rien du tout, même pas un reçu fiscal, ça arrive. Et voilà, il faut essayer de se faire accompagner également. Faut pas hésiter, faut y aller, faut sauter dans la piscine et go. Voilà.
Alors justement, moi mon conseil c'était de se jeter à l'eau. Pour moi, le digital, justement, c'est un peu ça. C'est que la digitalisation des associations, souvent, on voit des associations qui sont un peu dans la position dans laquelle vous êtes. Vous savez, quand vous montez au plongeoir à 10 mètres, et puis que là, vous dites, oula, est-ce que je vais sauter ou est-ce que je vais redescendre les marches? Généralement, une fois qu'on a sauté, ça se passe très bien. Et il faut pas avoir peur. Une petite anecdote là-dessus. C'est sur les campagnes de financement sur Internet, on encourage nous énormément les associations à faire toujours une petite vidéo du président de l'association avec un ou deux bénévoles ou qui explique pourquoi est-ce que ce financement est très important. Les réactions qu'on a sont très souvent ah mais moi j'ai pas de caméra, je suis pas capable, je suis pas Steven Spielberg, etc. etc. Ce qu'on répond généralement c'est si vous avez tous ou proche de vous quelqu'un qui va avoir un smartphone qui va être capable de vous faire une petite vidéo d'une minute, vous vous asseyez, vous expliquez tout simplement ce que vous avez à dire, et finalement c'est juste ça que les gens attendent. Donc voilà, n'ayez pas peur, jetez-vous à l'eau. Et mon dernier conseil, c'est si vous avez besoin que quelqu'un vous pousse un petit peu, n'hésitez pas à aller faire un tour dans le village numérique, parce que je suis convaincu que tous les acteurs du numérique seront dans cette dynamique-là. N'hésitez pas évidemment à aller faire un tour, en particulier sur le centre de l'ASSO. Et puis, il y a également pas mal d'ateliers sur le sujet. On en anime à 12h30 sur le paiement en ligne. Donc voilà, si vous avez besoin qu'on vous pousse pour sauter dans la piscine du digital, on est là.
Florence.
Alors deux petits tuyaux pour association fauchée, enfin entre guillemets. Hein. Mais ça peut toujours être utile parce qu'on n'a pas toujours les moyens effectivement d'avoir des professionnels en interne ou en sous-traitance. Il y a un truc qui est pas mal qui s'appelle le mécénat de compétences. Il y a une association qui s'appelle Passerelle et Compétences qui met en place du mécénat de compétences. Donc c'est des professionnels et il faut savoir que 20% des missions qu'ils font concernent des missions de communication parce que c'est un fort besoin des associations. Et en fait, en fonction des besoins des associations, ils les mettent en relation avec des professionnels de la communication dont c'est le métier, mais qui mettent du temps bénévole à disposition des projets de communication d'associations. Donc ils ont un site internet, il s'appelle Passerelle et Compétences. Je vous recommande, alors c'est plutôt sur des projets précis, mais ça peut aller d'un audit de situation de la communication dans votre asso, en passant par la réalisation d'une plaquette de communication. Ça peut être des choses très concrètes, mais il faut savoir que 20% de leur mission concerne des problématiques de communication. Donc ça, c'est un petit tuyau pour des associations qui voudraient s'engager mais qui n'ont pas nécessairement les moyens. Autre chose dans un tout autre registre, je pense que certains d'entre vous ou la plupart connaissent, mais il faut savoir qu'il y a un programme d'achat de mots-clés éligible sur Google pour les associations qui s'appelle Google Ad Grants, qui est un programme auquel vous avez accès en tant qu'association à but non lucratif. Vous déclarez comme tel et Google vous soutient à hauteur d'un budget d'achat de mots-clés de 10 000 euros par mois. Qui vous est concédé. Donc après, la seule problématique qui reste à faire, c'est la gestion des campagnes d'achat de mots-clés, puisque ça nécessite un petit peu de connaissances. Mais très honnêtement, il y a des gens, vous pouvez prester ça à des gens pour 500-600 euros maximum, mais à côté de ça, vous avez 10 000 euros de budget mensuel par Google, qui vous permet d'augmenter de façon exponentielle la visibilité de votre site internet. C'est pas toujours connu, et en général, au bout d'un certain mois, quand vous êtes considéré par Google comme clean, votre budget est augmenté. Donc ça s'appelle le programme Google Ad Grants. Vous tapez Google Ad Grants et vous aurez toutes les explications associées. Parce qu'aujourd'hui, avoir un site internet, aussi bien fait soit-il, mais s'il n'est pas boosté par des campagnes SEO et achat de mots-clés, c'est un petit peu dommage. Voilà.
Je vois que les gens, ils notent. Hein.
J'en profite, pardon, sur les bons plans, il y a aussi Microsoft qui a un programme similaire pour tous les logiciels. C'est pareil, c'est gratuit. Donc il y a pas mal de choses en fait que les géants du numérique font pour que les associations aient accès gratuitement à de la communication.
Puis il y a aussi les acteurs du logiciel libre qui sont présents dans le secteur associatif. Émilie ?
Oui, alors donc moi c'est deux choses que j'ai apprises moi-même en arrivant chez RSF hein, et que même en étant communicante auparavant, j'avais pas nécessairement intégré. La première chose, c'est le fait de systématiquement chercher à surprendre et à être clivant, c'est-à-dire à pas être là où on est attendu, à essayer de pousser les lignes et à essayer de ce qui nécessite effectivement une forme d'innovation permanente et qui met une forme de pression aussi. Mais en tout cas, c'est probablement ce qu'on attend de la part des associations et des organisations. Et je rejoins Florence sur ce point. Et c'est ce qu'on peut essayer de faire et qui marche. Et la deuxième chose, c'est le fait d'intégrer beaucoup, soit le secrétaire général, le président, enfin, d'intégrer, ou même des collègues qui, dans l'organisation, peuvent être les ambassadeurs, ou sur le net, d'autres ambassadeurs, mais c'est le fait de pas être forcément seul à faire, seul ou l'équipe communication à faire de la communication, mais que chacun prenne conscience que un secrétaire général qui, à un moment donné, y va, mouille sa chemise, va devant les médias, c'est probablement ce qui fonctionnera aussi le peut-être pas le mieux, mais en tout cas ce qui fera que ça fonctionnera, c'est de ne pas être seul à faire de la communication, mais de développer les multiples formes de communication à travers l'échantillon des possibilités que vous avez dans vos propres structures.
Merci. Je vais laisser la parole à Amélie qui va nous faire une petite synthèse. Elle peut aussi rajouter sa carte blanche si elle le souhaite.
Ok, merci. Alors si tu veux bien, je vais revenir sur une notion, sur chacun des témoignages avant de faire une petite synthèse un peu globale. Bon, il y a énormément de choses qui ont été dites et c'était vraiment passionnant. Si je devais retenir une notion, c'était très intéressant, Caro, ce que tu as pu dire sur le fait qu'en effet, on a beau avoir des projets qui touchent tout le monde, des valeurs qui sont là, et elles sont là dans l'ensemble des projets que vous portez, mais finalement, si on ne le dit pas, rien ne se passe. Et donc les valeurs ne suffisent pas, ou ne suffisent plus, en tout cas maintenant, pour communiquer. Et ça, c'est vraiment important de comprendre qu'en effet, la communication, c'est vital pour qu'en fait, vous soyez encore là l'année d'après et que le projet puisse perdurer. Et ça revient un peu sur le sujet des moyens qui est revenu plusieurs fois. À partir du moment où l'on sait et que l'on partage en interne le fait qu'en effet, la communication, c'est vital, c'est pas une cerise sur le gâteau, c'est quelque chose d'essentiel, et bien dans ce cas-là, la question des moyens, finalement, se pose moins. Alors, on a parlé des moyens financiers, mais on parle aussi de moyens humains, hein, parce qu'en effet, le premier frein, c'est de se dire « j'ai pas les sous pour communiquer ». Mais finalement, et les différents intervenants ont déjà donné quelques pistes, quand on n'a pas de sous, il faut donner du temps pour aller chercher des bénévoles, du temps pour aller chercher des solutions différentes et innovantes. Et donc, quand on parle de moyens, c'est vraiment lié à cette prise de conscience en interne que la communication, ça n'est pas accessoire, c'est vital et c'est un vrai levier de développement des structures. Une fois qu'on est convaincu de ça, et bien finalement, c'est beaucoup plus simple ensuite de mettre les choses en action. Finalement, on ne se pose pas la question de prendre ou pas un expert comptable. On se pose la question de communiquer ou pas parce qu'on pense encore que c'est quelque chose de superflu. La notion qui me semblait essentielle dans le témoignage de Florence, c'est ce vocabulaire qui est repris par les entreprises dites classiques. Alors, en effet, on ne stigmatise pas, hein, mais voilà. C'est vrai que les associations ont longtemps vécu cachées. Pendant ce temps-là, les entreprises classiques s'en sont données à cœur joie pour communiquer en utilisant des termes qui ont trait aux valeurs, qui finalement forment l'ADN original des associations. Et aujourd'hui, les associations doivent revenir sur le devant de la scène et se réapproprier ce champ lexical dont on peut croire parfois qu'il est galvaudé. Mais en fait, non. Vous êtes là justement pour en témoigner au quotidien et pour reprendre ce terrain, ce territoire des valeurs qui sont les vôtres. C'est possible de communiquer en respectant ces valeurs. Ça, c'est important de le savoir. Chacun peut jouer avec ce que nous, on appelle le curseur valeur, hein, savoir comment on parle de ces valeurs. Et puis, tu en as rapidement parlé, Florence. En effet, la communication des assos, de fait, va se rapprocher de ce qu'on appelle la communication responsable, hein, c'est-à-dire qu'on va communiquer dans le respect de l'environnement, on va communiquer dans le respect des cibles, on va communiquer dans le respect des citoyens en essayant d'être le plus participatif possible. On va essayer d'être le plus inclusif possible, hein, de s'adresser aussi aux malentendants, aux non-voyants. Et c'est ce que l'on appelle la communication responsable. Alors j'aime bien ce terme parce qu'en fait c'est un terme qui justement a été existe finalement parce que les entreprises classiques ont eu besoin de définir cette communication, alors qu'évidemment elle est tout à fait naturelle pour les entreprises sociales et solidaires. Je fais vite Jean-Baptiste, mais du coup, je reviens juste sur le témoignage d'Émilie rapidement, qui était super intéressant sur le fait de vraiment créer l'événement, sortir du lot. Et je voudrais vraiment revenir là-dessus, parce que comme tu aimes les petits sondages, moi, j'aimerais bien savoir combien de personnes dans la salle font partie d'une association qui a, allez, on va dire, moins de 20 salariés. Moins de 15 salariés. Moins de 10 salariés. Moins de 5 salariés. Allez, 1 salarié. 0 salarié. Voilà. Et donc, j'aimerais bien avoir un petit mot quand même pour ces associations-là, parce qu'en effet, on peut croire que c'est facile de sortir du lot et d'attirer la lumière vers soi quand on défend des grandes causes. Mais finalement, le sujet reste le même quand on est une association un petit peu avec une envergure plus réduite. Le mécanisme reste le même. On a parlé des médias. Les médias existent aussi pour des échelles plus locales. Vous aussi, vous pouvez créer l'événement. Vous aussi, vous pouvez sortir du lot. Et vous aussi, vous pouvez attirer le regard des médias sur votre association, quel que soit le sujet que vous portez, tant que vous avez quelque chose d'actuel et de sincère et de nouveau à dire aux journalistes. Et ça, c'est vraiment important parce que nous, on le voit au quotidien, ça n'est pas la taille des associations qui font qu'une association est mature ou pas pour communiquer. Cette prise de conscience de l'importance de la communication n'a rien à voir avec la taille des associations. On a déjà vu des associations avec zéro salarié qui sont bien plus convaincues de la pertinence de communiquer que des grosses fédérations nationales qui pourtant pourraient être hyper outillées pour le faire et qui ne savent pas du tout comment s'y prendre. Et puis sur Ismaël, ça va être hyper rapide, je vais retenir le petit conseil que tu as donné à la fin. J'ai envie de dire, parce que ça manque un peu d'anglais dans cette conférence, « better done than perfect ». C'est-à-dire qu'en effet, c'est bien de savoir comment faire et c'est bien de prendre conscience que communiquer, c'est une réelle stratégie réfléchie en amont. Mais c'est bien aussi de savoir se lancer à un moment et de se dire qu'on va pouvoir réajuster les choses en allant. Et donc, pour clôturer hyper rapidement, en effet, moi, ce que je retiens de ce que j'ai entendu là, c'est que finalement, la communication, c'est quelque chose qui se prévoit en amont. Dès le départ, c'est quelque chose qui est revenu au travers de l'ensemble des témoignages, et puis c'est quelque chose qui est partagé en interne. On l'a cité pour Nexem, on l'a cité aussi pour le fait de partager vraiment le discours de la sauvegarde. C'est vraiment deux clés de succès pour que la communication soit efficace en interne. Et puis du coup, j'ai envie de rajouter mon petit conseil que moi j'avais pas donné, qui est la simplicité. Parce qu'on a envie de dire plein de choses, parce qu'on a des structures qui sont complexes dans la manière dont elles sont structurées. Il y a des CA, il y a différentes parties prenantes, on a plein de choses à dire. Et puis on vit un peu dans un espèce de jargon dans lequel on aime bien se cacher quand on communique. Si j'avais un seul conseil à vous donner, c'est vraiment restez simple, soyez le plus simple possible. J'ai tendance à dire que si on est capable d'expliquer ce que l'on fait à un enfant de 10 ans et que cet enfant est capable de le comprendre et mieux de l'expliquer à son petit copain de classe, eh ben on a gagné. S'il fallait retenir une seule chose en termes de communication, c'est vraiment, voilà, mettez-vous au niveau d'un enfant de 10 ans. Ne vous cachez pas derrière le jargon et essayez d'être vraiment le plus simple possible. Tu me laisses encore une minute, rapidement ? Juste pour donner une ou deux perspectives sur la suite, on a aussi parlé d'impact et de mesures d'impact. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut s'appuyer et qui est vraiment un levier qui fait que la communication va vous allez pouvoir vous appuyer là-dessus pour appuyer et prendre, donner conscience en interne que la communication, c'est important. Avec cette mesure d'impact social, on a maintenant des choses tangibles à dire en termes de communication. Et c'est vraiment sur cette preuve par l'exemple que l'on peut s'appuyer pour avoir un discours de communication qui parle en externe et qui parle aussi en interne. Et si on va un petit peu plus loin, puisque c'est dans notre ADN d'innover, et bien innovons aussi pour en effet être les premiers à mesurer les actions de communication. C'est ça qui permettra vraiment d'utiliser la communication comme un levier de développement pour les structures.
Merci. Merci d'abord à tous mes intervenantes et intervenants qui sont venus, qui sont levés tôt ce matin pour partager leur envie, leur motivation. La conférence s'appelait « Booster votre association grâce à la communication ». Je ne sais pas si vous avez réussi à le faire. En tout cas, si nous, on a réussi à vous booster pour que vous soyez les acteurs de changement sur ce sujet-là, en tout cas, notre mission sera remplie. Et donc... encore merci d'avoir participé ce matin à cette conférence. Vous pouvez aller sur le Centre Quorum, où vous retrouverez Amélie. Vous pouvez aller sur le village associatif, où vous retrouverez notamment Ismaël. Et donc, voilà, le forum s'ouvre à vous. N'hésitez pas de passer de stand à stand. Et nous, on vous attend en tout cas sur le Centre Quorum.